Alors, on va parler de ces sorties de ce mercredi, là. On va commencer par Minari de Lee Isaac Chung. C'est un film qui a été oscarisé via son actrice principale, la grand-mère, une famille américaine d'origine sud-coréenne qui s'installe dans l'Arkansas. Voilà. Chung raconte, en fait, sa propre histoire de déracinement, de désillusion, mais aussi de célébrer les liens familiaux, même si la grand-mère fantasque et le petit-fils craquant se dégagent par leur interprétation, tous à peu près traités à égalité, dans un film simple, pudique, touchant, mais quand même un peu convenu.
Oui, un peu convenu, donc convenable. On met un certain temps, voire assez longtemps, à comprendre qu'en fait, on n'est pas du tout dans l'Amérique actuelle, mais dans celle des années 80,
oui.
Celle de Reagan.
Oui, bien sûr.
Et au fond, le propos du film, c'est le déplacement du rêve américain que le cinéma américain a traité, surtraité, multi, à travers de très nombreux films, de le déplacer, ce rêve américain, sur une sorte de rêve coréen en Amérique. Voilà, c'est ça le propos et peut-être le plus intéressant du film, mais comme vous le disiez très justement, on est quand même un petit peu déçu par ce traitement, par cette espèce de gentillesse globale qui alors qu'on aimerait que peut-être des choses plus saillantes apparaissent dans le film. Ça s'appelle Minari.
Tokyo Shaking de Olivier Perron avec Karine Viard. Tokyo, le 11 mars 2011, un tsunami ravage la côte du Japon menaçant de détruire la centrale de Fukushima. On connaît l'histoire. Alexandra, c'est elle, Karine Viard, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au cœur de cette crise, tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger sa famille. En fait, c'est une femme au cœur du mensonge, ceux de ses patrons, des filiales, du gouvernement, et en même temps, c'est un film catastrophe et une satire du monde de l'entreprise.
Oui, c'est peut-être d'ailleurs ça le plus intéressant du film,
oui.
C'est-à-dire la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, par exemple, dans un moment incroyable de déchaînement des éléments naturels. Ça, c'est très intéressant parce que la vision personnellement des personnages japonais, par exemple, je trouve qu'on est quand même pas mal dans la caricature, hein, la façon de les poser, de les montrer. Il y a des images terribles, mais qui sont des images documentaires, et ça, c'est voilà, c'est ça reste effectivement tout à fait abominable.
Ouais.
Quelqu'un a écrit dans la presse, et c'est juste le titre d'ailleurs qui a un léger problème, c'est que quand il y a ce genre de catastrophe, et ben il y a plus d'électricité, et c'est difficile. Ça serait difficile de faire un film dans ces conditions-là, alors que les scènes sont très très éclairées. Mais moi, c'est une remarque qui m'intéresse, parce que quelque part, on fait vivre dans ce film des situations et des personnages qui, hélas, ne peuvent pas les avoir vécu comme ça. Il n'y a plus d'électricité, on n'y voit rien. Voilà, bon, allez, c'est dit, c'est comme ça, mais c'est du cinéma, bien entendu.
Gagarine, la première fiction de Fanny Liattard et Jérémy Truil. Yuri a 16 ans, il a grandi à Gagarine, cette immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, il décide de rentrer en résistance. Ou comment réussir un film onirique sur des bases ultra réelles. Les deux réals sont arrivés à Gagarine en 2014, ont récolté multiples témoignages des habitants et ont finalement tourné quand Gagarine était vide avant la démolition pour raconter à l'arrivée un vrai dialogue entre deux personnages, Yuri l'adolescent et Gagarine l'immeuble. Et surtout, changer le regard sur la cité et sa jeunesse, Yuri l'aime et la quitter, pour lui, c'est tout perdre.
Oui, c'est un peu 2020, Odyssée d'une démolition.
Oui.
Voilà, bon, alors, c'est pas un film de Kubrick, mais en même temps, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette espèce de personnage totalement central sur lequel ils avaient fait un court-métrage, qui est cette tour en démolition, qui va disparaître. Alors, il y a une certaine naïveté qui traverse le film, qu'on peut trouver un peu trop, justement, naïve. Il y a une façon, peut-être, de ne pas savoir terminer le film, qui est un petit peu embêtante.
C'est
vrai, mais tout ça reste du beau cinéma et il y a une belle promesse. Je pense qu'on a envie de voir ce que ces deux réalisateurs feront par la suite. Donc Gagarine est tout à fait recommandable.
Mais c'est vrai que c'est des documents qu'on voit souvent aux news, ces immeubles qui s'effondrent et là enfin on sait ce qui se passe en gros.
Tout à fait. Ces coulisses sont passionnantes. D'ailleurs certains habitants ont reproché aux réalisateurs en leur disant mais attention ne donnez pas cette belle image de la tour, ils vont finir par ne pas la détruire. Donc voilà.
Un espion ordinaire de Dominique Cook. Un film d'espionnage, période guerre froide, vintage, donc inspiré de faits réels, académiques, mais relevé par l'interprétation de Benedict Cumberbatch.
Oui, moi je trouve qu'il y a deux parties. La première partie est passionnante, elle est c'est très bien fait, c'est-à-dire cette espèce de petit homme qui va devenir espion sans le vouloir, qui a pas du tout fait pour ça, c'est pas James Bond, donc ça c'est passionnant. Mais alors une fois qu'il est dans les geôles soviétiques, alors là ça devient quand même d'une pesanteur, d'une série de clichés, tout est gris. Il y a les très très bons d'un côté, les très 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 méchants de l'autre. On se croirait revenu dans les années 50 et franchement là pour le coup on a pas envie de voir ça, c'est tout très dommage.
Voilà. Ouais, mais Benedict Cumberbatch quand même.
D'accord.
Wendy vie de Ben Zetlin. Élevé par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien dénué de magie. On est en Amérique un soir. La fillette part à l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères. Au terme du voyage, il débarque sur une île mystérieuse où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle nommé Peter Pan. Autant son précédent film Les Bêtes du Sud Sauvage était très mêlait subtilement réalisme et onirisme, autant celui-là s'essouffle dans le réalisme, le lyrisme, l'hermétisme, l'épopée est interminable.
Oui, on peut songer, et dans ces cas-là, c'est pas forcément un compliment, on peut songer à du sous Terrence Malick, parfois même.
Attention, La Ligne Rouge est le film préféré de Bonapulvar.
Oui, mais bon, bah, tant mieux, mais.
Oui, mais c'est La Ligne Rouge.
C'est La Ligne Rouge, on est bien d'accord. Bon, bien sûr. Les enfants, ça va, et les adultes sont absolument ratés, donc c'est quand même un petit peu dommage dans cette histoire qui est aussi une confrontation entre le monde des enfants et celui des adultes.
On rappelle juste la sortie du premier film de Samir Ghesmi, l'acteur Ibrahim. L'histoire tout en délicatesse d'un père et son fils qui n'arrivent plus à communiquer.
Père,
Et je vais signaler une toute petite apparition merveilleuse de Rufus à la fin, voilà.
Rufus
et Anne Galante de Philippe Béziat qui a filmé les répétitions avec tous ses danseurs de hip-hop. On avait reçu la semaine dernière Bintou Dembélé.
Bintou Dembélé.
Non, oui, leur chorégraphe, Bintou Dembélé.
Les 30. Vous Mito, vous. Ils sont beaucoup, hein, dans un.
Vous déteignez sur nous.
Anne Galante, très grand film, mélange de chants lyriques et de danse urbaine.
Et de Rameau.
Et c'est assez merveilleux.
Et voilà. Ouais.
Et maintenant, si on parlait des festivals, alors
on peut dire peut-être quand même qu'il y a pour les films d'avenir. Non, on parle des festivals d'abord.
Les films de l'été.
Peut-être les films de l'été.
Allez. Peut-être des quelques petits repères comme ça.
Voilà.
Le 30 juin, My Zoé de Julie Delpy, président d'Anne Fontaine. Pour ces deux acteurs incroyables, Dujardin et
Gadebois.
Moi, je voudrais signaler une petite comédie très drôle qui s'appelle La Bataille du Rail. Enfin, c'est plutôt le rail de cocaïne de Jean-Charles Pogam avec un acteur adorable qui s'appelle Pierre Cotin, qui est très très doué et qui va faire une belle carrière. Bergman Island le 14 juillet comme Mystère à Saint-Tropez avec Benoît Poulvorde et Christian Clavier.
Acteur aux mille facettes.
Oui. 4 août, Alerte Rouge en Afrique Noire, et voilà, et les cycles Tanner et Piala.
Oui, dans La Ville Blanche, Charles Morrowitz, le retour, le cinéma suisse n'existe plus, quand il existait, qu'est-ce que c'était bien, et effectivement, une rétrospective Piala, ça fait toujours du bien à le revoir dans les salles de cinéma, évidemment.
Avant le festival de La Rochelle et Saint-Cloud, cinéma en plein air à La Villette, un mois de films gratuits projetés sur la grande pelouse du 16 juillet au 22 août, et dans la programmation cette année, Le Vent se lève, Invictus, Harvey Milk, First Man et Coco avant Chanel.
Ah non.
Oui, là.
Oui, on vous verra sur grand écran en plein air à La Villette.
Étienne Balzan, vous rappelez Étienne Balzan.
Étienne Balzan.
Aux côtés d'Audrey Tautou.
C'est vrai.
La Rochelle.
La Rochelle, 25 juin jusqu'au 4 juillet. Hommage à Xavier Beauvois, hommage à Gabriel Yared, rétrospective Rossellini, René Clément, Piala, Cimino et j'en oublie. Dessiner concert, vraiment, quand on aime le cinéma, on va sans problème à La Rochelle parce que le programme est d'une richesse sidérante. Du 25 juin au 4 juillet, La Rochelle.
Et un dernier petit avant les cadeaux.
Alors, du 9 juillet au 29 août, il y a au domaine de Saint-Cloud, très beau domaine de Saint-Cloud de près de Paris, paysage et cinéma, 5 cadres donnés, 5 invités, 5 installations, dont celle de Nicolas Parizère et Caroline Vignal, avec également un éclairage sur une partie de campagne de Renoir. C'est très alléchant, là aussi.
Il reste une minute, Laurent, pour relayer tous les cadeaux qu'on nous a offert à Bonapulvord.
Deux bouquins. Le premier bouquin, c'est David Niven, Les Mémoires.
Il paraît que c'est très bien.
Oui, c'est très très bien. Vous allez voir, vous allez rire. C'est formidable. C'est vraiment
une vie d'aventure.
Un gentleman extraordinaire.
Ah, il est déjà écorné.
C'est chez comment il est écorné.
N'importe quoi.
Vous mentez.
Il ment. Vite, Laurent. Vite.
Donc ça, c'est chez Séguier. Tito Topin, Casablanca, l'aventure d'un film. On connaît tous le film. Vous allez découvrir beaucoup d'aspects de ce très beau chef-d'œuvre, évidemment, l'histoire du cinéma.
Ah oui, je vois. Vous avez eu le temps de mettre votre café dessus, c'est très bien, voilà.
Un combo DVD, Seuls les anges ont des ailes, Howard Hawks, chez Wildside.
Alors là, mais quel travail, magnifique.
Film d'aventure, merveilleux.
Le livret est génial, les photos, fantastiques.
Et un polar noir de chez Noir, Marché de Brut, d'Anthony Mann, chez Rimini. Ça, c'est aussi magnifique, film DVD, Blu-ray, avec un livret. Voilà, on est heureux de vous offrir tout ça.
Formidable. Et tu n'as pas le boîtier, tu l'as, non?
Vous l'avez sous les yeux.